1, 2, 3, 4.
Bonjour Papa Marcelin, nous on a certaines questions pour vous concernant la sophédie. Notre première question c'est en rapport avec le contexte de mise en place et de création de la sophédie.
Ok, je peux essayer de répondre à cette première question. Sophédie est née dans un contexte plus ou moins de post-conflit. C'était vers les années 2005. On venait d'une guerre de rébellion. Enfin, la guerre n'était pas encore finie. Ce sont des épisodes qu'on vit même jusque maintenant, il y a toujours des épisodes. Et particulièrement dans la commune administrative où nous vivons, appelée Nyalukemba, et le passage d'un certain Mutebusi a fait des ravages sur des filles et des jeunes femmes. Je veux dire par là que certaines femmes, certaines filles ont été violées. Raison pour laquelle d'ailleurs quand ces bandits, je peux les appeler comme ça, ça en était pris à une expatriée, je crois que c'était de Save the Children ou quelque chose comme ça. Finalement, je pense que les chancelleries occidentales ont tapé du poing sur la table, ils ont dit ça en est trop. Alors, il était question maintenant de commencer à, je dirais, un peu à panser les plaies, à guérir un peu les traumatismes. Et cela a été, bien sûr, fait par quelques organisations internationales comme MSF Hollande et les autres, et je pense aussi à MSF Belgique. Mais il est arrivé un certain moment que ces organisations un peu levaient le pied ou bien déclaré que des fonds s'étaient épuisés. Alors, Madame Viviane Forte, de son expérience dans un premier projet lutte contre le sida à l'époque, et même de son expérience un peu à MSF et même à Association de santé familiale, a compris quand même qu'il fallait faire quelque chose. Il a dû regrouper autour d'elle quelques femmes d'abord et puis quelques hommes plus tard. Et comme il était indiqué que quand même ces militaires-là portaient certains le sida, il était question maintenant de se concentrer sur une catégorie des personnes. Et Madame Viviane et toutes ses camarades on pensait bon plutôt concentrer leurs efforts sur les femmes enceintes pour essayer de faire la sensibilisation et l'orientation pour des cas qui nécessitent, j'allais dire, une écoute et puis dépistage et tout ce qui vient après. Alors, il a décidé avec ses camarades. Bon, j'étais quand même aussi là-bas dans l'ombre, plus ou moins, en donnant quelques conseils. Et on créera ce qu'on appelle Solidarité et Sophénia. Sophénia, c'était encore quoi? Solidarité de femmes de Nyalukemba, quelque chose comme ça. Alors, on a commencé comme ça à les aider. Et entre-temps, il y avait un programme national qui naissait et qui était programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. On a obtenu un petit financement de cette organisation une première fois. On a fait un travail admirable. Et puis après, un deuxième financement n'est pas venu, bon, pour des raisons qui sont propres à l'organisation. Et c'est comme ça que un groupe de femmes autour de Madame Viviane et a décidé d'apporter une solution au problème des femmes, notamment en ce qui concerne le VIH-Sida et après cette circonstance de guerre.
Maintenant, je vais juste vous poser une question concernant le protocole Maputo. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que le protocole Maputo, est-ce que son application a été acceptée par les populations?
Le protocole de Maputo, évidemment, c'est un document qui promeut les droits des femmes, non seulement en matière économique, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, et en matière de la santé, particulièrement santé de la reproduction. Mais la partie qui, dès le 1900, 2008, quand on voulait le faire ratifier en RDC, ça avait levé beaucoup de boucliers en RDC. Ce qui fait que depuis 2008 jusqu'à il y a récemment 2000, je crois, 18, hein, je pense, hein, et son acceptation n'était pas toujours facile, surtout dans des milieux qui sont plus ou moins religieux, y compris mon milieu. Parce que moi-même également, quand j'avais entendu la première fois de Maputo, bon, j'avais quand même des réactions de scepticisme. Mais quand on avait extrait l'article 14, là, concernant la santé et la reproduction, j'ai vu finalement que ce n'était pas une permissivité qu'on voulait promouvoir en matière de sexualité, mais plutôt c'était plus ou moins des réponses qu'on voulait donner à des situations bien concrètes qui sont encore réelles dans les milieux africains, notamment des situations généralement de viol, même d'inceste, et de plus en plus même des violences sexuelles, c'est-à-dire les gens se permettent dans des situations de conflit de s'arracher un peu des services sexuels des gens sans leur consentement et de manière forcée, même en abîmant leurs organes génitaux par moment. Je crois que vous avez entendu et suivi que en RDC, cela s'est pratiqué même ici au Sud Kivu et au Nord Kivu. La réaction, c'est que elle est mitigée et elle est lente également. Mais sauf quand même, de plus en plus, des milieux qui sont plus concernés, qui peuvent rendre service à des personnes, des femmes et des filles qui sont dans ce problème. Problème souvent des grossesses non désirées, problème de grossesse liée au viol, grossesse liée à l'inceste et grossesse liée aux violences sexuelles, même de grossesse et pouvant être en malformation, donc pouvant menacer la vie et du fœtus et de la femme. Les personnes qui les rencontrent souvent, donc des prestataires de santé ou même généralement les leaders communautaires auprès de qui de fois on amène ces gens-là. On voit quand même que l'opinion est en train un tout petit peu de changer, c'est-à-dire de comprendre que quand même, dans tout cela, il faut protéger la vie. Et en protégeant la vie, il y a des situations dans lesquelles les vies sont menacées, notamment les avortements, surtout les avortements clandestins, comme on l'a dit, donc les avortements non sécurisés. Et de plus en plus même dans certains milieux, des grossesses et finalement dont on vous dirait que c'est son cousin ou bien c'est son oncle qui est à la base. Alors des fois ça traumatise et des fois il est bon de comprendre quand même le récit de ces gens et d'y apporter des solutions. Donc je dirais pour répondre à cette question, certains milieux surtout qui font face à des situations pareilles, dont le prestataire de soins, des leaders communautaires, chefs des quartiers et les autres, et même comment dirais-je, des OPJ, des commissariats, surtout de petits commissariats là, de rien du tout dans les avenues, les quartiers, les villages, ils sont un peu à peu en train de comprendre que c'est quand même une solution aux problèmes qui sont réels en matière de santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Mais ça reste encore très, très, très limité. Très, très limité, donc le travail est encore énorme. Ne fût-ce que mettre à la disposition des prestataires des soins les normes et directives pour soins complets d'avortement. Ça va?
Parfait. Parfait,
Okay.
parfait. Nous vous remercions énormément, Papa Papa, excusez-moi, Papa Marcelin. Donc, notre question de la fin qui va être,
Khadija,
est-ce... Oui.
est-ce qu'on ne peut quand même pas dire quelque chose sur le problème des conflits dans la région?
Oui, donc oui, on va vous laisser vous exprimer un peu là-dessus, puis on reste à l'écoute.
OK.
Donc là,
Bon,
vous allez juste détailler par rapport à l'origine du conflit actuel que vivent les populations en RDC. Merci.
Oui, à remonter aux origines, c'est un peu compliqué, hein. Bon, si je prends le cas de notre pays, la RDC, on se rend compte que la justification très souvent acceptée par des Occidentaux, souvent qui sont très influents en matière de politique internationale, de la diplomatie internationale, qu'on essaie d'effacer, de faire passer à leurs oreilles, et que chez nous, surtout au nord Kivu et au sud Kivu, il y avait une tendance d'exclure ce qu'on appelle la communauté Tutsi à la gestion de la chose publique, donc en matière politique. Ça remonte déjà même à l'époque de Mobutu. On ne savait pas que cet alibi pourrait constituer un jour la base ou les raisons, le fondement d'une guerre dans la première fois dont on a dit qu'il était des libérations quand Kabila est venu, pour la deuxième fois la guerre du RCD. Jusque maintenant, d'autres rébellions, CNDP, M23 et actuellement AFC. On ne savait pas que c'était le lit d'une conspiration, permettez-moi de le dire, internationale, non seulement pour favoriser une catégorie de la communauté vivant dans les régions de Grand Lac, puisque cette communauté cette ethnie qu'on appelle Tutsi est non seulement au Rwanda, au Burundi, une partie en Ouganda, une partie aussi en Tanzanie.
Les employés de Sofedi sont rémunérés.
Ah, évidemment, ils sont rémunérés sur la base des projets. Quand le projet se termine, la rémunération prend fin. Donc, le régime des rémunérations, c'est en fonction des projets. Sinon, quand il n'y a pas de projet, on fait tous le bénévolat pour maintenir le bureau.
Parfait, parfait, c'est bon à savoir. Donc là, notre podcast touche à sa fin. On vous remercie énormément, Papa Marcelin, par rapport à votre disponibilité, par rapport à vos questions, par rapport à vos réponses plutôt, qui sont bien fournies, bien détaillées. Donc, on vous remercie énormément de votre temps, de votre disponibilité. Donc, notre podcast touche à sa fin et on vous souhaite une agréable journée, fin de journée.
Je vous remercie également pour l'intérêt que vous avez sur le travail de Sofedi, surtout de donner l'occasion de faire connaître ce qu'est Sofedi et ce que fait Sofedi. Et s'il y a des zones d'ombre, et on est toujours à votre disposition pour éclairer, pour éclaircir. Merci beaucoup Fabiola, merci beaucoup Khadija, merci beaucoup Yousra.